Le journal, voici Mariam El Kurdi. Bonjour Mariam.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les incendies sont-ils une fatalité? Selon Christophe Castaner, la plupart sont dus non pas au hasard de la nature, mais à nos mauvais usages. À Vaison-les-Romaines, dans le Vaucluse, des bénévoles partent en mission, surveillance et sensibilisation en forêt. Regardez bien vos factures d'énergie, il y a du changement à partir d'aujourd'hui. Bonne nouvelle pour les utilisateurs du gaz, mauvaise pour ceux de l'électricité. En Égypte, 130 détenus sont en grève de la faim depuis 6 semaines dans le sud du Caire. Les conditions de détention y sont inhumaines et cruelles, dénonce Amnesty International. Un simple test urinaire pour détecter le cancer de la prostate sera peut-être bientôt possible. Explication avec Véronique Julia dans ce journal. Enfin, la chasse aux trottinettes à Marseille est déjà lancée avant la réglementation prévue à la rentrée dans le cadre de la loi mobilité. Il en va de la sécurité des Marseillais. Vos invités, Pierre.
À 8h moins le quart, Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion de l'IFOP, il signe une enquête. Les Français et les vacances, quelles inégalités. 8h20, le grand entretien avec Jean-Philippe Béja, spécialiste de la Chine. Question sur la crise à Hong Kong, près de 2 mois de contestations souvent violentes. Un pays, deux systèmes, les habitants de Hong Kong n'y croient plus, ils craignent pour leur liberté. Vos questions pour Jean-Philippe Béja vers 8h35 au standard 01 45 24 7000, le standard qui est d'ores et déjà en service et qui attend vos questions.
France Inter. Près de 500 hectares de végétation brûlés dans le Gard. Un exemple parmi tant d'autres des incendies en France cet été. La surface qui a brûlé cette année en France est déjà supérieure à celle que nous avons connue sur la totalité de l'année 2018, selon Christophe Castaner. Et face à ces feux, sommes-nous impuissants? Il se pourrait bien que non. Oui, il y a la sécheresse et la canicule qui peuvent favoriser des départs de feu. Mais pas que. La plupart des incendies sont dus à des mauvais usages, souligne le ministre de l'Intérieur. Les pompiers le constatent, dans la plupart des départements, seuls 5% des feux ont des origines naturelles. La majorité sont dus à nos activités, des imprudences, barbecue, mégots de cigarettes, travaux, etc. Responsabilité et prudence sont donc de mise dans nos massifs forestiers si on veut les sauvegarder. À Vaison-les-Romaines, dans le Vaucluse, des bénévoles ont décidé de surveiller leur forêt. Ils se relaient aussi pour faire de la sensibilisation. Flora Midi a suivi cette patrouille de bénévoles.
José vérifie le 4x4 orange avant de partir.
La tonneau aussi, elle est armée. On a une pelle, on a ce qu'il faut pour gratter. Une petite lance.
Donc là, on va aller sur Mars, José.
Ouais.
Direction Mars, pas dans l'espace, mais Mars, le massif commune de Séguré. À bord, José est accompagné du responsable du comité, Elian Fonsalva.
On n'est pas des pompiers. Si on voit un départ de feu, bien sûr, on a de l'eau dans le véhicule, on essaie de faire l'attaque, mais de suite, on appelle le centre opérationnel sur Avignon, qui s'appelle le CODIS, et là, ils vont déclencher les secours appropriés.
Pas des pompiers, mais des bénévoles, José est un retraité amoureux de ces massifs.
C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, se sentir utile en surveillance.
José est interrompu par l'équipe qui vient juste d'arriver à la vigie.
On se dirige sur vous.
Une vigie tout en bois, perchée à 9 mètres de haut, près du château d'eau de la Sainte-Croix, avec à l'intérieur tout le matériel nécessaire.
La table à cartes, les jumelles, la radio.
Yves, alias Pierrot, scrute la vue à 180 degrés.
Le Mont Ventoux, on voit le Mont Serein, on voit Malocène, après on voit le château de Vaison, Saint-Amand, on voit Rasto, et même plus au fond, on voit Orange.
Pas de départ de feu aujourd'hui, mais quand ça arrive, les secours sont prévenus. Le comité de feux de forêt aura fait sa part.
Un reportage Flora Midi à Vaison, la Romaine, dans le Vaucluse. Un rassemblement hier soir à Toulouse pour rendre hommage à Steve Canisso et pour dénoncer les violences policières. Le jeune homme de 24 ans est mort noyé le soir de la fête de la musique après une intervention controversée des forces de l'ordre au bord de la Loire. De nombreux appels ont été diffusés pour rendre hommage à nouveau à Steve samedi à Nantes. Parmi les mots d'ordre, ni oubli, ni pardon, nous demandons des réponses. Le rapport de l'IGPN qui dédouane la police s'est fortement contesté. D'autres enquêtes administratives et judiciaires sont en cours. Attention, si vous voulez changer votre vieille voiture en échange d'un véhicule moins polluant, les règles de la prime à la casse changent à partir d'aujourd'hui. Le gouvernement, dépassé par le succès de l'opération, durcit les conditions d'obtention de la prime à la conversion. Vous ne pourrez plus obtenir de coup de pouce en échange d'un achat plus vert si vous aviez un véhicule diesel d'occasion. Même chose si vous avez des revenus trop élevés ou que vous envisagez d'acheter une voiture à plus de 60 000 euros. Le dispositif se concentre sur les foyers les plus modestes. Autre changement à partir de ce 1er août, le chassé-croisé dans vos factures d'énergie. Les tarifs du gaz baissent, mais ceux de l'électricité augmentent. Une nouvelle hausse après celle du 1er juillet, Grégoire Le Callot.
L'été est décidément douloureux pour les 25 millions d'abonnés aux tarifs réglementés de l'électricité, plus tous ceux qui ont une offre indexée sur ces tarifs. La hausse qui frappera les prochaines factures est plus modeste que la dernière, plus 1,23%. Mais pourquoi encore une augmentation alors qu'il y en a déjà eu une record de 5,1% au 1er juillet? C'est la Commission de régulation de l'énergie qui fixe deux fois par an ces évolutions tarifaires. Cette fois, elle explique qu'il s'agit principalement de compenser les coûts de l'acheminement de l'électricité depuis les centrales de production jusqu'au client. C'est la partie de votre facture qui rémunère le gestionnaire du réseau électrique, RTE, et le distributeur Enedis. Avec cette hausse, le tarif réglementé de l'électricité aura donc quasiment doublé en 10 ans. Le gaz, lui, suit le chemin inverse. Après la baisse du tarif réglementé de 6,8% au 1er juillet, celle du 1er août est plus légère, de moins 0,1% si vous utilisez uniquement le gaz pour cuisiner, jusqu'à moins 0,6% si c'est votre mode de chauffage.
Ils n'avaient pas défini de cible précise, mais leur projet était très clair. Trois hommes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels pour un projet d'attentat qui a donc été déjoué. Deux d'entre eux sont des détenus, l'un d'eux à la prison de Châteaudun dans l'Eure-et-Loire, l'autre à Saint-Maur dans l'Indre. Le renseignement a bien fonctionné selon le ministre Christophe Castaner. Décharges électriques, mauvais traitements, privation de visites, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les conditions de détention d'une prison en Égypte, dans le sud du Caire. Elles sont cruelles et inhumaines, selon l'ONG de défense des droits de l'homme, à tel point que plus de 130 prisonniers sont en grève de la faim depuis un mois et demi dans cette prison. Claude Guibal.
La grève a débuté en juin, plus précisément deux jours après la mort en plein tribunal de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien. Ce frère musulman, élu au lendemain de la révolution, puis destitué par l'armée un an plus tard, malade, détenu à l'isolement pendant 6 ans, il s'est effondré durant une audience sans pouvoir être ranimé. En 2018, une commission britannique indépendante avait dénoncé ses conditions de détention. Le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a depuis demandé une enquête pour éclaircir les circonstances de son décès. Et c'est bien en réaction à cette mort que les prisonniers de Tora se sont révoltés. La prison de Tora est la plus sinistrement célèbre d'Égypte, là où le régime incarcère ses principaux ennemis, les islamistes, djihadistes ou frères musulmans, mais aussi plus généralement tous ceux qui, sous le couvert d'une accusation de terrorisme ou de sédition, sont arrêtés et détenus parfois sans jugement pour s'être opposés frontalement à Abdel Fattah el-Sissi. Militants des droits de l'homme, jeunes libéraux de la place Tahrir, blogueurs, journalistes, selon les ONG, il y aurait plus de 60 000 prisonniers politiques en Égypte, ce que nient les autorités égyptiennes.
Claude Guibal pour France Inter. Il n'y a pas que dans l'économie que la Chine entend accroître sa présence. Les Chinois investissent aussi les grandes institutions internationales. Dernier exemple en date, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Un Chinois prend officiellement ses fonctions aujourd'hui à Rome, où se trouve le siège de l'organisation. Il s'appelle Ku Dongyu, il est biologiste de formation, mais il est aussi vice-président de l'agriculture en Chine. Le biologiste a été élu en juin alors qu'une candidate française était donnée favorite. Mais les Chinois ont trouvé les moyens d'arriver à leur fin, accroître leur influence, Nathanaël Charbonnier.
Sur les 15 agences internationales des Nations Unies, la Chine en dirige maintenant 4. Dernière en date, la FAO. Le vote avait lieu en juin dernier et les Chinois ont sorti les grands moyens pour s'en emparer. Si l'on en croit certaines sources diplomatiques, ils n'auraient pas hésité à espionner ou à acheter des votes, notamment en Afrique. François-Yves Damon, du Centre français de recherche sur le renseignement.
Effacer une dette, c'est pas illégal. Si on a un vote en contrepartie, elle prête beaucoup d'argent et en contrepartie de certains avantages, elle efface des dettes. Et tenir la FAO, ça va leur permettre d'avoir la plus grande réglementation des produits dont ils ont besoin pour se nourrir.
Et à tout cela s'ajoute aussi le pouvoir d'influence, celui par exemple de la diaspora chinoise. Dans ce contexte, posséder la direction de la FAO n'est pas anodin pour Pékin, et même si son nouveau directeur est encadré par les 194 États membres qui la composent, il aura un vrai pouvoir. Rodrigo de la Puerta, directeur du bureau de liaison de la FAO à Bruxelles.
Il est la voix de la FAO, il participe dans toutes les réunions internationales, il travaille pour les États membres. Et le directeur général a le pouvoir d'engager des partenariats pour s'engager avec le secteur privé et la société civile.
Pouvoir d'influence, pouvoir de décision et enfin pouvoir financier. La FAO dispose d'un budget de près de 5 milliards d'euros par an.
Nathanaël Charbonnier pour France Inter.
Il est 7h10, une question. Mariam, comment détecter un cancer de la prostate?
Le moyen qui est pratiqué actuellement, la biopsie, est inconfortable, angoissant pour les patients et pas toujours très fiable. Cela pourrait bientôt changer grâce à un simple test urinaire. Une équipe de l'Institut Curie vient d'obtenir un financement européen pour finaliser la mise au point de ce nouveau test de diagnostic plus rapide et moins douloureux, Véronique Julia.
Aujourd'hui, le dépistage du cancer de la prostate se fait d'abord par prise de sang et par palpation de la prostate. Mais ça ne suffit pas, ces méthodes ne sont pas assez précises. Quand il y a un soupçon, les patients doivent subir une biopsie, douloureuse, angoissante, avec des risques d'infection. Un moment difficile pour le patient et qui ne confirme un cancer que dans 50% des cas. Le test urinaire proposé ne viendrait pas remplacer le dépistage et la prise de sang. En revanche, il interviendrait juste après et poserait un diagnostic fiable, permettant ainsi d'éviter 30 à 40% de biopsies inutiles. Finalement, seuls les patients avec un test urinaire positif seraient orientés vers la biopsie. Le test serait fait par un urologue et le résultat connu en quelques jours. Grâce à l'intelligence artificielle, l'équipe de recherche française a identifié dans une partie méconnue du génome une série de marqueurs détectables dans l'urine et présents en grand nombre dans les cas de tumeurs de la prostate. Antonin Morillon est directeur de recherche CNRS à l'Institut Curie.
Nous, on va regarder une multitude de marqueurs, on va multiplier les marqueurs, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, qu'on va trouver dans l'ensemble du génome et qui nous permet d'avoir une réponse absolument parfaite à 100% de la présence d'un cancer ou pas.
Le test ne sera pas disponible pour les patients avant quelques années. Son autre avantage, c'est qu'il devrait permettre aussi de faire des économies de santé en évitant des biopsies onéreuses.
Quand pour aller d'un point A à un point B, on peut gagner du temps tout en évitant les transports, beaucoup disent oui, oui, à la trottinette, tellement pratique, mais aussi tellement agaçante pour les autres, les automobilistes, les piétons. À Paris, les trottinettes électriques sont interdites de stationnement sur les trottoirs. Une série de mesures doit entrer en vigueur à la rentrée partout en France pour mettre fin à ce que la ministre des Transports appelle la loi de la jungle. À Marseille, la mairie a anticipé la future réglementation. Elle interdit l'usage des trottinettes sur les trottoirs, car les abus sont nombreux, Corinne Blotin.
Une interdiction que cette serveuse en terrasse voit d'un très bon œil.
Ah bah ça sera mieux, ouais. Et nous, quand on sort avec nos assiettes entre la terrasse et le restaurant, c'est un passage continuel, donc voilà, constamment embêté.
Il faut dire que Charlotte a frôlé l'accident à plusieurs reprises.
Ah, on les voit tout le temps ou on les voit pas et on se les prend en pleine face. Ça arrive de partout. Ils freinent pas, ils nous foncent dedans. Des jeunes, beaucoup de jeunes.
Des jeunes comme cet usager âgé de 14 ans que nous appellerons Léo et qui utilise ses trottinettes très régulièrement.
4 fois par semaine.
Pour aller où ?
Pour zoner.
Vous la payez ou pas ?
Ça dépend.
Léo reconnaît rouler partout, trottoir, voie de tram, voie de bus, parce que sur la rue c'est dangereux, dit-il.
Ouais, il y a des voitures qui tournent à droite, à gauche et tout, ça, on peut faire un accident.
Les accidents, Léo, lui, il les a évités jusqu'à présent, mais il fait presque figure d'exception.
Mon collègue, il est déjà rentré sur une dame. Elle est tombée par terre et après c'est bon, il n'a pas eu très mal. Mon collègue, il est déjà rentré dans une voiture. Il est parti en courant, parce qu'en plus il payait pas.
Et on imagine qu'il va être très difficile de leur faire respecter, à eux comme à beaucoup d'autres, la nouvelle réglementation.
Si on veut partir à la plage, ben, on prend la trottinette. Ben, on fait vite.
Tu y vas tout seul dessus ou vous montez à deux ?
Même à quatre.
Oui. À quatre ?
Ouais, on arrive à quatre. Même si on tombe, c'est pas grave, on s'en fout.
On y arrive, oui, mais c'est interdit et dangereux. Et puis pour aller à la plage, on peut y aller tout simplement à pied, Pierre.
C'était le journal de Mariam El-Kurdi.